Une nuit de France Culture, une mémoire radiophonique.
Bleu, blanc, rouge, une histoire de France, une histoire des couleurs, histoire contrariée parfois, un temps confisqué par quelques-uns, c'est ce qu'on dit. C'est Michel Pastoureau, historien, spécialiste bien connu des couleurs, qui décryptait l'histoire du bleu, blanc, rouge à l'occasion d'une émission sur le drapeau, plus vieux média du monde. C'était sur France Culture le 17 novembre 1993, dans Les Chemins de la Connaissance.
Le drapeau, demeuré longtemps un signe de ralliement, ne devint emblème national que dans une période avancée de notre histoire. Chez nous, tout commença avec la Révolution française. En fait, l'histoire de la République et celle du drapeau tricolore ont un itinéraire commun. Quand la première s'installe, le second flotte sur le pays. Quand la royauté reprend le pas, c'est le blanc que l'on hisse. Néanmoins, 1789 demeure une date charnière. Mais on a souvent oublié que c'est grâce à la marine que depuis 1794, le drapeau tricolore a la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Michel Pastoureau, est-ce que les origines du drapeau français sont parfaitement connues ?
Non. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ses origines demeurent quelque peu énigmatiques. Beaucoup d'hypothèses ont été avancées pour comprendre pourquoi, à partir de 1789, se met en place une cocarde tricolore qui progressivement va donner naissance, d'abord sur mer puis sur terre, au drapeau tricolore qui est resté le drapeau français, lequel a influencé un grand nombre d'autres drapeaux, à la fois par ses couleurs et par sa structure. Mais on ne sait pas très bien ce qui se passe, soit avant, soit après la prise de la Bastille, en juillet 1789, lorsque naît cette cocarde tricolore qui va devenir l'emblème des patriotes et de la République en marche, avant de devenir un emblème ayant presque un statut de figure d'État. On a longtemps raconté que soit Lafayette, c'est ce qu'il dit lui-même d'ailleurs dans ses mémoires, soit Bailly, le maire de Paris, avait créé cette cocarde en associant la couleur du roi, le blanc.
Oui, c'était le drapeau français à ce moment-là.
C'était le drapeau du roi, plus que le drapeau de la France, le drapeau blanc monochrome. Donc Bailly, Lafayette ou quelqu'un d'autre aurait associé ce blanc royal avec les couleurs de la ville de Paris, porté par la garde nationale, le rouge et le bleu, et on aurait fait une formule à trois couleurs, le tricolore, qui serait devenu le drapeau français. Au lendemain de la prise de la Bastille, Lafayette se vante d'avoir, avec Bailly, imposé au roi cette cocarde et de l'avoir obligé à la graffer sur son chapeau. Les faits sont controversés. Ce qui est certain pour l'historien, c'est que si le blanc est bien, en 1789, la couleur du roi, le rouge et le bleu ne sont plus guère les couleurs de la ville de Paris à la fin du XVIIIe siècle. Au XVIe siècle, oui, rouge et bleu constituent les couleurs emblématiques de la ville de Paris et d'un certain nombre de ses institutions.
Alors pourquoi, oui, le rouge et le bleu associés au blanc, soudain ?
Je crois qu'il faut rechercher plus en amont que la Révolution française, et regarder d'une part du côté des habitudes chromatiques de la dynastie des Bourbons. Et en effet, les Bourbons, tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle, usent d'une livrée, c'est-à-dire d'un système vestimentaire, à trois couleurs, le blanc, le bleu et le rouge. Mais cette livrée n'est là qu'épisodiquement, parfois ils utilisent d'autres couleurs. Et je crois qu'il faut regarder aussi et surtout du côté de la Révolution américaine, qui précède de quelques années la Révolution française. Et là, on s'aperçoit que le bleu, blanc, rouge sont pleinement, dans les années 1770, les couleurs de la Révolution en marche, mais de la Révolution en marche, non pas sur le Vieux Monde, mais au Nouveau Monde. En effet, les colons américains qui se dressent contre la couronne britannique à partir des années 1773-74, choisissent comme emblème les mêmes couleurs que le drapeau britannique, le bleu, le blanc et le rouge, mais les associe d'une manière différente selon des formules qui au début hésitent et puis qui rapidement quand même donnent naissance à ce qui sera le futur drapeau américain, des rayures horizontales associées à un carré semé d'étoiles tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et je crois que c'est la Révolution américaine qui a répandu sur le vieux continent, et notamment en France, cette mode du bleu-blanc-rouge dès les années 1780-1785, ce qui fait qu'à la veille de la Révolution française, en 88 par exemple, les partisans des idées nouvelles portent déjà des vêtements ou des emblèmes tricolores bleu-blanc-rouge, et la Révolution française ne va faire que récupérer des habitudes qui sont de l'ordre de la mode vestimentaire notamment, qui sont là avant la Révolution française. Donc je crois que c'est le modèle américain qui est
déjà à cette époque-là.
Oui, tout à fait, qui a influencé les pratiques emblématiques et chromatiques de la Révolution française. Alors, pourquoi ces trois couleurs pendant la Révolution américaine? J'ai dit que ces trois couleurs prises par les insurgés des colonies d'Amérique étaient en fait les trois couleurs de la couronne britannique. Et en effet, le drapeau britannique, avec ses croix, est en place dès le début du XVIIe siècle, c'est-à-dire depuis le moment où le roi d'Écosse, Jacques VI, Stuart, devient à la fois roi d'Écosse et roi d'Angleterre par héritage, et associe en sa personne les deux royaumes, le royaume d'Angleterre et le royaume d'Écosse, et crée à cette occasion une bannière nouvelle, un drapeau nouveau qui fait fusionner la bannière d'Angleterre et la bannière d'Écosse. La bannière d'Angleterre était rouge à croix blanche, la bannière d'Écosse était bleue avec un sautoir blanc. On fusionne tout ça, ça donne ce qui sera plus tard l'Union Jack, c'est-à-dire le drapeau britannique auquel s'ajoutera la croix d'Irlande plus tard, beaucoup plus tard. Mais déjà, donc, à partir du début du XVIIe siècle, le bleu, le blanc et le rouge sont les trois couleurs de la monarchie britannique, vont devenir les trois couleurs des colonies insurgées au Nouveau Monde, aux Amériques, et vont devenir les couleurs de la Révolution en marche à partir de la fin du XVIIIe siècle, à la fois au Nouveau Monde et dans l'Ancien Monde. Donc je crois qu'il faudrait rechercher les origines chromatiques, en tout cas, du drapeau tricolore français dans ce qui se passe dans le monde de la Grande-Bretagne au début du XVIIe siècle, lorsque l'Écosse et l'Angleterre fusionnent, réunissent leurs deux bannières, et au lieu d'avoir un drapeau bichrome, prennent un drapeau trichrome pour former le drapeau britannique.
Pourquoi le drapeau français a adopté les rayures verticales ?
La formule est attenante. Hein. Ce qui est important, c'est la cocarde, donc des structures concentriques d'abord. Et puis on a cherché à faire passer ce tricolore vers des supports carrés et rectangulaires. Donc il fallait trouver une autre géométrie. Et avant que ne se stabilise la formule que nous connaissons avec les rayures verticales, il se passe environ 15 ans. Les premières rayures verticales, telles que nous les connaissons, apparaissent sur mer vers 1794 pour un certain nombre de pavillons de marine. Et pour les armées de terre, il faut attendre vraiment le Premier Empire, l'horizon des années 1810-1812. C'est David, le peintre David, qui a créé cette formule en 1794, qu'il a proposée d'abord comme drapeau de la marine et puis après comme drapeau de la nation française. Mais il a fallu du temps avant que l'on accepte. Ce qui est invraisemblable dans ce drapeau, qui est assez laid visuellement. Oui, je trouve qu'il est assez laid parce que l'axe du drapeau, qui est un axe horizontal, fait contraste avec ses rayures verticales qui sont beaucoup plus courtes que l'axe horizontal. Si les rayures avaient été horizontales, le drapeau serait beaucoup plus élégant. C'est le cas d'ailleurs du drapeau luxembourgeois et du drapeau néerlandais, qui sont eux aussi tricolores bleu, blanc, rouge, mais avec des rayures qui sont horizontales. C'est la bonne longueur, si je puis dire, c'est le grand côté. Alors que ces rayures verticales sur le petit côté, ça choque l'œil.
Alors pourquoi le projet de David a eu gain de cause finalement?
Parce que David était un personnage extrêmement influent, à la fois sur le plan artistique et sur le plan idéologique. Il a créé beaucoup de costumes, beaucoup d'insignes, et donc proposé cette forme d'emblème nouveau, qu'est le drapeau tricolore. Et rapidement, sous le consulat et sous l'Empire, on a vu l'avantage qu'il y avait à utiliser cette nouvelle formule, qui permettait à la fois de rompre avec les emblèmes et les symboles du passé, tout en assurant une certaine continuité, et d'autre part, dans cette formule extrêmement simplifiée, permettait d'être vue de loin et reproduite facilement partout. C'est beaucoup plus facile de représenter sur toutes sortes de supports le drapeau tricolore bleu-blanc-rouge que les anciennes armoiries des rois de France, un champ bleu semé de fleurs de lys d'or. Les fleurs de lys, c'est compliqué à dessiner. Les rayures verticales, cela ne pose aucun problème. Donc, pour l'époque contemporaine, c'est un gros atout que cette simplicité extrême du drapeau français que n'importe quel enfant de 4 ans peut représenter.
Michel Pastoureau, est-ce que le drapeau français a inspiré d'autres drapeaux nationaux ?
C'est le cas de l'Italie, par exemple. L'Italie a adopté une formule tricolore, comme pour la France, et ce drapeau tricolore italien, vert, blanc, rouge, est déjà là avant que l'unité italienne ne soit réalisée. C'est un drapeau choisi par différentes provinces et royaumes, partisans d'une unité italienne tout au long des premières décennies du XIXe siècle, avant que cette unité soit réalisée. L'idée, c'est de faire une nation à l'image de la nation française et un État moderne à l'image de ce qu'était la France. Mais c'est la même chose pour la Belgique. Lorsque la Belgique accède à l'indépendance en 1830, elle se choisit une formule tricolore, comme la France, avec des rayures verticales, mais elle prend des couleurs qui lui sont propres.
Et puis, on voit fleurir beaucoup de drapeaux tricolores.
Beaucoup de drapeaux tricolores, et à des dates plus récentes, c'est le cas d'un assez grand nombre de drapeaux d'Afrique noire, par exemple, qui ont été colonies françaises, qui ont gardé du drapeau français cette structure ternaire à trois couleurs, mais qui ont choisi naturellement d'autres couleurs que le bleu, blanc, rouge. Donc ce drapeau naît pendant la Révolution et sous l'Empire, au tournant des 18e et 19e siècles, a des conséquences très grandes sur l'évolution des drapeaux tout au long du 19e et du 20e siècle.
Mais pourquoi la couleur bleue est celle qui est contre la hampe du drapeau et le rouge à l'extrémité du drapeau ? Est-ce qu'il y a une raison ?
Alors, il y a une raison héraldique, c'est celle qui veut que le bleu et le rouge ne doivent pas se toucher. Donc, en choisissant les trois couleurs, on a bien placé le blanc au milieu, ce qui fait que le bleu et le rouge, qui dans les règles du blason ne doivent pas se toucher, sont séparés. Pourquoi le bleu près de la hampe et pourquoi le rouge loin de la hampe ? Ça, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que quand on étudie les dessins et même les drapeaux conservés de cette période 1794-1815, on s'aperçoit que toutes les formules ont existé. Parfois, c'était le rouge qui était près de la hampe et le bleu qui flottait au vent. Parfois, le drapeau était complètement carré. Et le rouge et le bleu touchaient en deux endroits la hampe avec un système de losanges. Il a fallu un certain temps avant que la formule que nous connaissons s'impose dans toutes les armées représentant la France. Et puis après, s'étendre du monde militaire, qui est un lieu d'élection favori pour les drapeaux, vers le monde civil, celui de l'administration, celui de la vie quotidienne aussi.
Oui, là c'est un usage plus récent.
C'est un usage plus récent, mais enfin, dès l'époque impériale, on passe du monde militaire vers le monde civil. Et puis, la Troisième République a fait énormément pour que le drapeau français soit présent dans tous les villages de France par le biais du fronton de la mairie et de l'école, parfois.
Mais parmi les trois couleurs, c'est bien la couleur blanche qui est la plus ancienne.
Qui est la couleur du roi, oui, ça c'est très frappant. Tout au long de l'Ancien Régime, le blanc est la couleur du roi, spécialement aux armées, sur les champs de bataille. Les régiments royaux, les régiments dont le roi est le colonel, en quelque sorte, portent une cornette blanche.
Et il n'est pas étonnant que les révolutionnaires aient voulu garder quand même la couleur blanche, la couleur du roi ?
Eh bien, cette formule tricolore naît au moment où la Révolution n'est pas républicaine, elle est monarchiste. Les insurgés et les patriotes de 1789-90, même encore, sont partisans d'une monarchie constitutionnelle à l'anglaise, en quelque sorte. Il ne vient à l'idée de personne de chasser le souverain. Cela va se faire à partir de 91, notamment à partir de la fuite de Varennes. Et puis le roi sera destitué l'année suivante, en 92. Mais cette formule tricolore est une formule encore royaliste en 1789. Donc il est normal que la couleur du roi, si c'est elle, soit présente au sein de ce tricolore.
Et ce tricolore a un trajet assez chaotique au XIXe siècle. Il a failli être abandonné à deux reprises.
À plusieurs reprises, en effet. Sous la Restauration, Il y a eu la tentation de rétablir les drapeaux d'Ancien Régime, le drapeau blanc pour le roi, la bannière d'azur à fleur de lys d'or pour la monarchie et peut-être même pour le royaume. Mais Louis XVIII, peut-être plus sage que Charles X en bien des domaines, a compris que ce serait quelque chose de difficile que d'abandonner complètement le drapeau tricolore. Donc, il a fait timidement ce retour aux formules traditionnelles. Sous Charles X, le drapeau tricolore est presque complètement évacué. C'est pour cela qu'il réapparaît pendant la Révolution de 1830. Et il devient le drapeau de la République contre la monarchie et de la Révolution contre la tyrannie, comme l'on disait à l'époque. Et puis surtout, il renaît en 1848, lorsqu'il a failli être éliminé par le drapeau rouge. L'affaire est bien connue, c'est Lamartine qui, à l'Hôtel de Ville, a repoussé le drapeau rouge que les insurgés de février 1830 voulaient imposer, en soulignant combien le drapeau tricolore avait fait le tour du monde, comme il a dit, sur mer et sur terre, et avait fait connaître la France sur les différents continents, alors que le drapeau rouge n'avait fait que le tour de la place du 100 mars, allusion à un événement de juin 1791, lorsque le drapeau rouge avait cessé d'être un drapeau pacifique pour devenir un drapeau insurrectionnel. Donc, Lamartine a en quelque sorte sauvé le drapeau tricolore, qui a été menacé encore une nouvelle fois entre 1871 et 1875, après la chute du Second Empire et la liquidation de la Commune. On pensait au retour de la monarchie et le comte de Chambord, pressenti pour monter sur le trône, a été intransigeant. Il ne voulait revenir que si le drapeau blanc remplaçait le drapeau tricolore. Et cette affaire du drapeau a pris une importance considérable, puisque c'est elle qui...
C'est à cause du drapeau que finalement
en partie,
il n'est pas
cela a échoué. Il n'y a pas que cela, mais cette intransigeance sur le fait du drapeau a contribué à l'éloignement de la monarchie. Et donc à partir de 1875, et surtout des dernières années du 19e siècle, le drapeau tricolore devient enfin le drapeau de tous les Français et presque de toutes les idéologies présentes dans la République française. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'un bout à l'autre de l'échiquier politique, tout le monde se reconnaît, tout le monde ou presque se reconnaît dans le drapeau tricolore. Même les mouvements monarchistes français actuels reconnaissent que c'est le drapeau légitime de la France.
Vous venez d'écouter Le Drapeau, plus vieux média du monde, une émission diffusée dans Les Chemins de la Connaissance le 17 novembre 1993 sur France Culture.